Honoré de Balzac, Melmoth réconcilié. Il est une nature d'homme que la civilisation obtient dans le règne social, comme les fleuristes créent dans le règne végétal par l'éducation de la serre, une espèce hybride qu'ils ne peuvent reproduire ni par semis ni par bouture. Cet homme est un caissier, véritable produit anthropomorphe, arrosé par les idées religieuses, maintenu par la guillotine, ébranché par le vice et qui pousse à un troisième étage entre une femme estimable et des enfants ennuyeux. Le nombre des caissiers à Paris sera toujours un problème pour le physiologiste. A-t-on jamais compris les termes de la proposition dont un caissier est l'X connu ? Trouver un homme qui soit sans cesse en présence de la fortune comme un chat devant une souris en cage. Trouver un homme qui ait la propriété de rester assis sur un fauteuil de canne dans une loge grillagée, sans avoir plus de pas à y faire que n'en a dans sa cabine un lieutenant de vaisseau, pendant les 7/8 de l'année et durant 7 à 8 heures par jour. Trouver un homme qui ne s'enquilose à ce métier ni les genoux ni les apophyses du bassin. Un homme qui ait assez de grandeur pour être petit. Un homme qui puisse se dégoûter de l'argent à force d'en manier. Demandez ce produit à quelque religion, à quelque morale, à quelque collège, à quelque institution que ce soit, et donnez-leur Paris, cette ville aux tentations, cette succursale de l'enfer, comme le milieu dans lequel sera planté le caissier. Eh bien, les religions défileront l'une après l'autre. Les collèges, les institutions, les morales, toutes les grandes et les petites lois humaines viendront à vous comme vient d'un ami intime auquel vous demandez un billet de 1 000 francs. Elles auront un air de deuil, elles se grimeront, elles vous montreront la guillotine comme votre ami vous indiquera la demeure de l'usurier, l'une des 100 portes de l'hôpital. Néanmoins, la nature morale a ses caprices, elle se permet de faire ça et là d'honnêtes gens et des caissiers. Aussi les corsaires que nous décorons du nom de banquier et qui prennent une licence de 1 000 écus comme un forban prend ses lettres de marque, ont-ils une telle vénération pour ces rares produits des incubations de la vertu qu'ils les encagent dans des loges afin de les garder comme les gouvernements gardent les animaux curieux? Si le caissier a de l'imagination, si le caissier a des passions, ou si le caissier le plus parfait aime sa femme et que cette femme s'ennuie, est de l'ambition ou simplement de la vanité, le caissier se dissout. Fouillez l'histoire de la caisse. Vous ne citerez pas un seul exemple du caissier parvenant à ce qu'on nomme une position. Ils vont au bagne, ils vont à l'étranger, ou végètent à quelque second étage, rue Saint-Louis, au Marais. Quand les caissiers parisiens auront réfléchi à leur valeur intrinsèque, un caissier sera hors de prix. Il est vrai que certaines gens ne peuvent être que caissiers, comme d'autres sont invinciblement fripons. Étrange civilisation. La société décerne à la vertu 100 louis de rente pour sa vieillesse, un second étage, du pain à discrétion, quelques foulards neufs et une vieille femme accompagnée de ses enfants. Quant au vice, s'il a quelque hardiesse, s'il peut tourner habilement un article du code comme Turenne tournait Montecuculi, la société légitime ses millions volés, lui jette des rubans, le farcit d'honneur et l'accable de considération. Le gouvernement est d'ailleurs en harmonie avec cette société profondément illogique. Le gouvernement, lui, lève sur les jeunes intelligences, entre 18 et 20 ans, une conscription de talent précoce. Il use par un travail prématuré de grands cerveaux qu'il convoque afin de les trier sur le volet comme les jardiniers font de leurs graines. Il dresse à ce métier des jurés peseurs de talent qui essaient les cervelles comme on essaie l'or à la monnaie. Puis, sur les 500 têtes chauffées à l'espérance que la population la plus avancée lui donne annuellement, il en accepte le tiers, le met dans de grands sacs appelés ses écoles et l'y remue pendant 3 ans. Quoique chacune de ces greffes représente d'énormes capitaux, il en fait pour ainsi dire des caissiers. Il les nomme ingénieurs ordinaires, il les emploie comme capitaines d'artillerie. Enfin, il leur assure tout ce qu'il y a de plus élevé dans les grades subalternes. Puis, quand ces hommes d'élite, engraissés de mathématiques et bourrés de sciences, ont atteint l'âge de 50 ans, ils leur procurent en récompense de leur service le troisième étage, la femme accompagnée d'enfants, et toutes les douceurs de la médiocrité. Que de ce peuple dupe il s'en échappe 5 à 6 hommes de génie qui gravissent les sommités sociales, n'est-ce pas un miracle? Ceci est le bilan exact du talent et de la vertu dans leur rapport avec le gouvernement et la société à une époque qui se croit progressive. Sans cette observation préparatoire, une aventure arrivée récemment à Paris paraîtrait invraisemblable. Tandis que, dominée par ce sommaire, elle pourra peut-être occuper les esprits assez supérieurs pour avoir deviné les véritables plaies de notre civilisation, qui, depuis 1815, a remplacé le principe honneur par le principe argent. Par une sombre journée d'automne, vers 5 heures du soir, le caissier d'une des plus fortes maisons de banque de Paris travaillait encore à la lueur d'une lampe allumée déjà depuis quelque temps. Suivant les us et coutumes du commerce, la caisse était située dans la partie la plus sombre d'un entresol, étroit et bas d'étage. Pour y arriver, il fallait traverser un couloir éclairé par des jours de souffrance et qui longeait les bureaux dont les portes étiquetées ressemblaient à celles d'un établissement de bain. Le concierge avait dit flegmatiquement, dès 4 heures, suivant sa consigne, « La caisse est fermée ». En ce moment, les bureaux étaient déserts, les courriers expédiés, les employés partis, les femmes des chefs de la maison attendaient leurs amants, les deux banquiers dînaient chez leur maîtresse. Tout était en ordre. L'endroit où les coffres-forts avaient été scellés dans le fer se trouvait derrière la loge grillée du caissier, sans doute occupé à faire sa caisse. La devanture ouverte permettait de voir une armoire en fer moucheté par le marteau, qui, grâce aux découvertes de la serrurerie moderne, était d'un si grand poids que les voleurs n'auraient pu l'emporter. Cette porte ne s'ouvrait qu'à la volonté de celui qui savait écrire le mot d'ordre dont les lettres de la serrure gardent le secret sans se laisser corrompre. Belle réalisation du « Sésame, ouvre-toi » des 1001 nuits. Ce n'était rien encore. Cette serrure lâchait un coup de tromblon à la figure de celui qui, ayant surpris le mot d'ordre, ignorait un dernier secret, l'ultima ratio du dragon de la mécanique. La porte de la chambre, les murs de la chambre, les volets des fenêtres de la chambre, toute la chambre était garnie de feuilles en tôle de 4 lignes d'épaisseur, déguisées par une boiserie légère. Ces volets avaient été poussés, cette porte avait été fermée. Si jamais un homme put se croire dans une solitude profonde et loin de tous les regards, cet homme était le caissier de la maison Nucingen et compagnie, rue Saint-Lazare. Aussi le plus grand silence régnait-il dans cette cave de fer. Le poêle éteint jetait cette chaleur tiède qui produit sur le cerveau les effets pâteux et l'inquiétude nauséabonde que cause une orgie à son lendemain. Le poêle endort, il est bête et contribue singulièrement à crétiniser les portiers et les employés. Une chambre à poêle est un matras où se dissolvent les hommes d'énergie, où s'amincissent leurs ressorts, où s'usent leurs volontés. Les bureaux sont la grande fabrique des médiocrités nécessaires au gouvernement pour maintenir la féodalité de l'argent sur laquelle s'appuie le contrat social actuel. Voyez les employés. La chaleur méphitique qui produit une réunion d'hommes n'est pas une des moindres raisons de l'abâtardissement progressif des intelligences. Le cerveau d'où se dégage le plus d'azote asphyxie les autres à la longue. Le caissier était un homme âgé d'environ 40 ans, dont le crâne chauve reluisait sous la lueur d'une lampe Carcel qui se trouvait sur sa table. Cette lumière faisait briller les cheveux blancs mélangés de cheveux noirs qui accompagnaient les deux côtés de sa tête, à laquelle les formes rondes de sa figure prêtaient l'apparence d'une boule. Son teint était d'un rouge de brique. Quelques rides enchâssaient ses yeux bleus. Il avait la main potelée de l'homme gras. Son habit de drap bleu, légèrement usé sur les endroits saillants et les plis de son pantalon miroité, présentait à l'œil cette espèce de flétrissure qui imprime l'usage, que combat vainement la brosse, et qui donne aux gens superficiels une haute idée de l'économie, de la probité d'un homme assez philosophe ou assez aristocrate pour porter de vieux habits. Mais il n'est pas rare de voir les gens qui liardent sur des riens se montrer faciles, prodigues ou incapables dans les choses capitales de la vie. La boutonnière du caissier était ornée du ruban de la Légion d'honneur, car il avait été chef d'escadron dans les dragons sous l'empereur. Monsieur de Nucingen, fournisseur avant d'être banquier, ayant été jadis à même de connaître les sentiments de délicatesse de son caissier, en le rencontrant dans une position élevée d'où le malheur l'avait fait descendre, y eut égard en lui donnant 500 francs d'appointement par mois. Ce militaire était caissier depuis 1813, époque à laquelle il fut guéri d'une blessure reçue au combat de Studzianka pendant la déroute de Moscou. Mais après avoir langui 6 mois à Strasbourg, où quelques officiers supérieurs avaient été transportés par les ordres de l'empereur pour y être particulièrement soignés. Cet ancien officier, nommé Castagnier, avait le grade honoraire de colonel et 2 400 francs de retraite. Castagnier, en qui depuis 10 ans le caissier avait tué le militaire, inspirait au banquier une si grande confiance qu'il dirigeait également les écritures du cabinet particulier situé derrière sa caisse et où descendait le baron par un escalier dérobé. Là se décidaient les affaires. Là était le blutoir où l'on tamisait les propositions, le parloir où s'examinait la place. De là partaient les lettres de crédit. Enfin là se trouvaient le grand livre et le journal où se résumait le travail des autres bureaux. Après être allé fermer la porte de communication à laquelle aboutissait l'escalier qui menait au bureau d'apparat où se tenaient les deux banquiers au premier étage de leur hôtel, Castagnier était revenu s'asseoir et contemplait depuis un instant plusieurs lettres de crédit tirées sur la maison Watchildine à Londres. Puis il avait pris la plume et venait de contrefaire, au bas de toutes, la signature Nucingen. Au moment où il cherchait laquelle de toutes ces fausses signatures était la plus parfaitement imitée, il leva la tête comme s'il eût été piqué par une mouche en obéissant à un pressentiment qui lui avait crié dans le cœur. « Tu n'es pas seul. » Et le faussaire vit derrière le grillage, à la chatière de sa caisse, un homme dont la respiration ne s'était pas fait entendre, qui lui parut ne pas respirer, et qui sans doute était entré par la porte du couloir que Castagnier aperçut tout grande ouverte. L'ancien militaire éprouva, pour la première fois de sa vie, une peur qui le fit rester la bouche béante et les yeux hébétés devant cet homme, dont l'aspect était d'ailleurs assez effrayant pour ne pas avoir besoin des circonstances mystérieuses d'une semblable apparition. La coupe oblongue de la figure de l'étranger, les contours bombés de son front, la couleur aigre de sa chair, annonçaient, aussi bien que la forme de ses vêtements, un Anglais. Cet homme puait l'anglais. À voir sa redingote à collet, sa cravate bouffante dans laquelle se heurtait un jabot à tuyaux écrasés et dont la blancheur faisait ressortir la lividité permanente d'une figure impassible, dont les lèvres rouges et froides semblaient destinées à sucer le sang des cadavres, on devinait ses guêtres noires boutonnées jusqu'au-dessus du genou et cet appareil à demi puritain d'un riche anglais sorti pour se promener à pied. L'éclat que jetaient les yeux de l'étranger était insupportable et causait à l'âme une impression poignante qu'augmentait encore la rigidité de ses traits. Cet homme sec et décharné semblait avoir en lui comme un principe dévorant qu'il lui était impossible d'assouvir. Il devait si promptement digérer sa nourriture qu'il pouvait sans doute manger incessamment, sans jamais faire rougir le moindre linéament de ses joues. Une tonne de ce vin de Tokay, nommé vin de succession, il pouvait l'avaler sans faire chavirer ni son regard poignardant qui lisait dans les âmes, ni sa cruelle raison qui semblait toujours aller au fond des choses. Il avait un peu de la majesté fauve et tranquille des tigres. « Monsieur, je viens toucher cette lettre de change, » dit-il à Castagnier d'une voix qui se mit en communication avec les fibres du caissier. Et les atteignit toutes avec une violence comparable à celle d'une décharge électrique. « La caisse est fermée, » répondit Castagnier. « Elle est ouverte, » dit l'anglais en montrant la caisse. « Demain est dimanche, et je ne saurais attendre. La somme est de 500 000 francs, vous l'avez en caisse, et moi je la dois. Mais, monsieur, comment êtes-vous entré ?» L'anglais sourit, et son sourire terrifia Castagnier. Jamais réponse ne fut ni plus ample ni plus péremptoire que ne le fut le pli dédaigneux et impérial formé par les lèvres de l'étranger. Castanier se retourna, prit 50 paquets de 10 000 francs en billets de banque, et, quand il les offrit à l'étranger qui lui avait jeté une lettre de change acceptée par le baron de Nucingen, il fut pris d'une sorte de tremblement convulsif en voyant les rayons rouges qui sortaient des yeux de cet homme et qui venaient reluire sur la fausse signature de la lettre de crédit. « Votre acquis n'y est pas, » dit Castanier en retournant la lettre de change. « Passez-moi votre plume, » dit l'anglais. Castanier présenta la plume dont il venait de se servir pour son faux. L'étranger signa John Melmotte, puis il remit le papier et la plume au caissier. Pendant que Castanier regardait l'écriture de l'inconnu, laquelle allait de droite à gauche à la manière orientale, Melmotte disparut et fit si peu de bruit que quand le caissier leva la tête, il laissa échapper un cri en ne voyant plus cet homme et en ressentant les douleurs que notre imagination suppose devoir être produites par l'empoisonnement. La plume dont Melmotte s'était servie lui causait dans les entrailles une sensation chaude et remuante assez semblable à celle que donne l'émétique. Comme il semblait impossible à Castanier que cet Anglais eût deviné son crime, il attribua cette souffrance intérieure à la palpitation que, suivant les idées reçues, doit procurer un mauvais coup au moment où il se fait. « Oh diable, je suis bien bête! Dieu me protège, car si cet animal s'était adressé demain à ces messieurs, j'étais cuit !» se dit Castanier en jetant dans le poêle les fausses lettres inutiles qui s'y consumèrent. Il cacheta celle dont il voulait se servir, prit dans la caisse 500 000 francs en billets et en banque-notes, la ferma, mit tout en ordre, prit son chapeau, son parapluie, éteignit la lampe après avoir allumé son bougeoir et sortit tranquillement pour aller, suivant son habitude quand le baron était absent, remettre une des deux clés de la caisse à madame de Nucingen. « Vous êtes bien heureux, monsieur Castanier, » lui dit la femme du banquier en le voyant entrer chez elle. « Nous avons une fête lundi, vous pourrez aller à la campagne à Soisy. » « Voudrez-vous avoir la bonté, madame, de dire à Nucingen que la lettre de change des Wachildine, qui était en retard, vient de se présenter ? Les 500 000 francs sont payés. Ainsi, je ne reviendrai pas avant mardi, vers midi. Adieu, monsieur, bien du plaisir. »« Et vous, idem, madame, » répondit le vieux dragon en regardant un jeune homme alors à la mode nommé Rastignac, qui passait pour être l'amant de madame de Nucingen. « Madame, » dit le jeune homme, « ce gros père-là m'a l'air de vouloir vous jouer quelque mauvais tour. »« Ah bah, c'est impossible, il est trop bête. »« Piquoiseau, » dit le caissier en entrant dans la loge, « pourquoi donc laisses-tu monter à la caisse passer 4 heures ?»« Depuis 4 heures, » dit le concierge, « j'ai fumé ma pipe sur le pas de la porte et personne n'est entré dans les bureaux. Il n'en est même sorti que ces messieurs. »« Es-tu sûr de ce que tu dis ?» Sûr comme de ma propre honneur. Il est venu seulement à 4 heures l'ami de Monsieur Verbrust, un jeune homme de chez Messieurs du Tillet et compagnie, rue Joubert. Bon, dit Castanier qui sortit vivement. La chaleur émétisante que lui avait communiquée sa plume prenait de l'intensité. Mille diables, pensait-il en enfilant le boulevard de Gand. Ai-je bien pris mes mesures? Voyons, 2 jours francs, dimanche et lundi. Puis un jour d'incertitude avant qu'on ne me cherche. Ces délais me donnent 3 jours et 4 nuits. J'ai 2 passeports et 2 déguisements différents. N'est-ce pas à dérouter la police la plus habile? Je toucherai donc mardi matin 1 million à Londres, au moment où l'on n'aura pas encore ici le moindre soupçon. Je laisse ici mes dettes pour le compte de mes créanciers, qui mettront un P dessus, et je me trouverai, pour le reste de mes jours, heureux en Italie, sous le nom du comte Ferraro, ce pauvre colonel que moi seul ai vu mourir dans les marais de Zembine, et de qui je chausserai la pelure. Mille diables, cette femme que je vais traîner après moi pourrait me faire reconnaître. Une vieille moustache comme moi, sans juponner, s'acoquiner à une femme. Pourquoi l'emmener? Il faut la quitter. Oui, j'en aurai le courage. Mais je me connais, je suis assez bête pour revenir à elle. Cependant, personne ne connaît Aquilina. L'emmènerai-je? Ne l'emmènerai-je pas? Tu ne l'emmèneras pas, lui dit une voix qui lui troubla les entrailles. Castanier se retourna brusquement et vit l'anglais. Le diable s'en mêle donc, s'écria le caissier à haute voix. Melmotte avait déjà dépassé sa victime. Si le premier mouvement de Castanier fut de chercher querelle à un homme qui lisait ainsi dans son âme, il était en proie à tant de sentiments contraires qu'il en résultait une sorte d'inertie momentanée. Il reprit donc son allure et retomba dans cette fièvre de pensée naturelle à un homme assez vivement emporté par la passion pour commettre un crime, mais qui n'avait pas la force de le porter en lui-même sans de cruelles agitations. Aussi, quoique décidé à recueillir le fruit d'un crime à moitié consommé, Castanier hésitait-il encore à poursuivre son entreprise, comme font la plupart des hommes à caractère mixte, chez lesquels il se rencontre autant de force que de faiblesse et qui peuvent être déterminés aussi bien à rester purs qu'à devenir criminels, suivant la pression des plus légères circonstances. Il s'est trouvé dans le ramas d'hommes enrégimentés par Napoléon beaucoup de gens qui, semblables à Castanier, avaient le courage tout physique du champ de bataille sans avoir le courage moral qui rend un homme aussi grand dans le crime qu'il pourrait l'être dans la vertu. La lettre de crédit était conçue en de tels termes qu'à son arrivée à Londres, il devait toucher 25 000 livres sterling chez Watchild Inne, le correspondant de la maison de Nucingen, avisé déjà du paiement par lui-même. Son passage était retenu par un agent pris à Londres au hasard, sous le nom du comte Ferraro, à bord d'un vaisseau qui menait de Portsmouth en Italie une riche famille anglaise. Les plus petites circonstances avaient été prévues. Il s'était arrangé pour se faire chercher à la fois en Belgique et en Suisse pendant qu'il serait en mer. Puis, quand Nucingen pourrait croire être sur ses traces, il espérait avoir gagné Naples, où il comptait vivre sous un faux nom, à la faveur d'un déguisement si complet qu'il s'était déterminé à changer son visage en y simulant à l'aide d'un acide les ravages de la petite vérole. Malgré toutes ces précautions qui semblaient devoir lui assurer l'impunité, sa conscience le tourmentait. Il avait peur. La vie douce et paisible qu'il avait longtemps menée avait purifié ses mœurs soldatesques. Il était probe encore et il ne se souillait pas sans regret. Il se laissait donc aller pour une dernière fois à toutes les impressions de la bonne nature qui regimbaient en lui. « Bah !» se dit-il au coin du boulevard et de la rue Montmartre. « Un fiacre me mènera ce soir à Versailles au sortir du spectacle. » Une chaise de poste m'attend chez mon vieux maréchal des logis qui me garderait le secret sur ce départ en présence de 12 soldats prêts à le fusiller s'il refusait de répondre. Ainsi je ne vois aucune chance contre moi. J'emmènerai donc ma petite naquie. Je partirai. « Tu ne partiras pas !» lui dit l'anglais dont la voix étrange fit affluer au cœur du caissier tout son sang. Melmotte monta dans un tilbury qui l'attendait et fut emporté si rapidement que Castanier vit son ennemi secret à 100 pas de lui sur la chaussée du boulevard Montmartre et la montant au grand trot avant d'avoir eu la pensée de l'arrêter. « Mais, ma parole d'honneur, ce qui m'arrive est surnaturel !» se dit-il. « Si j'étais assez bête pour croire en Dieu, je me dirais qu'il a mis Saint-Michel à mes trousses. Le diable et la police me laisseraient-ils faire pour m'empoigner à temps ? « A-t-on jamais vu ? Allons donc, c'est des niaiseries !» Castanier prit la rue du Faubourg Montmartre et ralentit sa marche à mesure qu'il avançait vers la rue Richer. Là, dans une maison nouvellement bâtie, au second étage d'un corps de logis donnant sur des jardins, vivait une jeune fille connue dans le quartier sous le nom de Madame de Lagarde et qui se trouvait innocemment la cause du crime commis par Castanier. Pour expliquer ce fait et achever de peindre la crise sous laquelle succombait le caissier, il est nécessaire de rapporter succinctement quelques circonstances de sa vie antérieure. Madame de Lagarde, qui cachait son véritable nom à tout le monde, même à Castanier, prétendait être piémontaise. C'était une de ces jeunes filles qui, soit par la misère la plus profonde, soit par défaut de travail ou par l'effroi de la mort, souvent aussi par la trahison d'un premier amant, sont poussées à prendre un métier que la plupart d'entre elles font avec dégoût, beaucoup avec insouciance, quelques-unes pour obéir aux lois de leur constitution. Au moment de se jeter dans le gouffre de la prostitution parisienne à l'âge de 16 ans, belle et pure comme une madone, celle-ci rencontra Castanier. Trop mal léché pour avoir des succès dans le monde, fatigué d'aller tous les soirs le long des boulevards à la chasse d'une bonne fortune payée, le vieux dragon désirait depuis longtemps mettre un certain ordre dans l'irrégularité de ses mœurs. Saisi par la beauté de cette pauvre enfant que le hasard lui mettait entre les bras, il résolut de la sauver du vice à son profit par une pensée autant égoïste que bienfaisante, comme le sont quelques pensées des hommes les meilleurs. Le naturel est souvent bon, l'état social y mêle son mauvais, de là proviennent certaines intentions mixtes pour lesquelles le juge doit se montrer indulgent. Castagnier avait précisément assez d'esprit pour être rusé quand ses intérêts étaient en jeu. Donc, il voulut être philanthrope à coup sûr et fit d'abord de cette fille sa maîtresse. « Eh eh !» se dit-il dans son langage soldatesque. « Un vieux loup comme moi ne doit pas se laisser cuire par une brebis. Papa Castagnier, avant de se mettre en ménage, pousse une reconnaissance dans le moral de la fille, afin de savoir si elle est susceptible d'attache. » Pendant la première année de cette union illégale, mais qui la plaçait dans la situation la moins répréhensible de toutes celles que réprouve le monde, la Piémontaise prit pour nom de guerre celui d'Aquilina, l'un des personnages de Venise sauvée, tragédie du théâtre anglais qu'elle avait lue par hasard. Elle croyait ressembler à cette courtisane, soit par les sentiments précoces qu'elle se sentait dans le cœur, soit par sa figure ou par la physionomie générale de sa personne. Quand Castagnier lui vit mener la conduite la plus régulière et la plus vertueuse que pût avoir une femme jetée en dehors des lois et des convenances sociales, il lui manifesta le désir de vivre avec elle maritalement. Elle devint alors Madame de Lagarde, afin de rentrer, autant que le permettaient les usages parisiens, dans les conditions d'un mariage réel. En effet, l'idée fixe de beaucoup de ces pauvres filles consiste à vouloir se faire accepter comme de bonnes bourgeoises, tout bêtement fidèles à leur mari. Capables d'être d'excellentes mères de famille, d'écrire leurs dépenses et de raccommoder le linge de la maison. Ce désir procède d'un sentiment si louable que la société devrait le prendre en considération. Mais la société sera certainement incorrigible et continuera de considérer la femme mariée comme une corvette à laquelle son pavillon et ses papiers permettent de faire la course, tandis que la femme entretenue est le pirate que l'on pend faute de l'être. Le jour où Madame de Lagarde voulut signer Madame Castagnier, le caissier se fâcha. « Tu ne m'aimes donc pas assez pour m'épouser ? » dit-elle. Castagnier ne répondit pas et resta songeur. La pauvre fille se résigna. L'ex-dragon fut au désespoir. Naquit fut touchée de ce désespoir, elle aurait voulu le calmer. Mais pour le calmer, ne fallait-il pas en connaître la cause? Le jour où Naquit voulut apprendre ce secret, sans toutefois le demander, le caissier révéla piteusement l'existence d'une certaine Madame Castagnier, une épouse légitime, mille fois maudite, qui vivait obscurément à Strasbourg sur un petit bien et à laquelle il écrivait deux fois chaque année, en gardant sur elle un si profond silence que personne ne le savait marier. Pourquoi cette discrétion? Si la raison en est connue à beaucoup de militaires qui peuvent se trouver dans le même cas, il est peut-être utile de la dire. Le vrai troupier, s'il est permis d'employer ici le mot dont on se sert à l'armée pour désigner les gens destinés à mourir capitaine, ce cerf attaché à la glèbe d'un régiment est une créature essentiellement naïve, un castagnier voué par avance aux roueries des mères de famille qui, dans les garnisons, se trouvent empêchées de filles difficiles à marier. Donc, à Nancy, pendant un de ces instants si courts où les armées impériales se reposaient en France, Castagnier eut le malheur de faire attention à une demoiselle avec laquelle il avait dansé dans une de ces fêtes nommées en province des Redoutes, qui souvent était offerte à la ville par les officiers de la garnison et vice-versa. Aussitôt, l'aimable capitaine fut l'objet d'une de ces séductions pour lesquelles les mères trouvent des complices dans le cœur humain en en faisant jouer tous les ressorts, et chez leurs amis qui conspirent avec elles. Semblables aux personnes qui n'ont qu'une idée, ces mères rapportent tout à leurs grands projets, dont elles font une œuvre longtemps élaborée, pareil au cornet de sable au fond duquel se tient le formica Léo. Peut-être personne n'entrera-t-il jamais dans ce dédale si bien bâti, peut-être le formica Léo mourra-t-il de faim et de soif. Mais s'il y entre quelque bête étourdie, elle y restera. Les secrets calculs d'avarice que chaque homme fait en se mariant, l'espérance, les vanités humaines, tous les fils par lesquels marche un capitaine, furent attaqués chez Castanier. Pour son malheur, il avait vanté la fille à la mère en la lui ramenant après une valse. Il s'ensuivit une causerie au bout de laquelle arriva la plus naturelle des invitations. Une fois amené au logis, le dragon y fut ébloui par la bonhomie d'une maison où la richesse semblait se cacher sous une avarice affectée. Il y devint l'objet d'adroites flatteries et chacun lui vanta les différents trésors qui s'y trouvaient. Un dîner, à propos servi en vaisselle plate prêtée par un oncle, les attentions d'une fille unique, les cancans de la ville, un sous-lieutenant riche qui faisait mine de vouloir lui couper l'herbe sous le pied. Enfin, les mille pièges des formicaléos de province furent si bien tendus que Castanier disait, 5 ans après, « Je ne sais pas encore comment cela s'est fait ». Le dragon reçut 15 000 francs de dot et une demoiselle heureusement brehaigne que 2 ans de mariage rendirent la plus laide et conséquemment la plus hargneuse femme de la terre. Le teint de cette fille, maintenu blanc par un régime sévère, se coupe rosa. La figure, dont les vives couleurs annonçaient une séduisante sagesse, se bourgeonna. La taille, qui paraissait droite, tourna. L'ange fut une créature grognarde et soupçonneuse qui fit enrager Castanier. Puis la fortune s'envola. Le dragon, ne reconnaissant plus la femme qu'il avait épousée, consigna celle-là dans un petit bien à Strasbourg, en attendant qu'il plût à Dieu d'en orner le paradis. Ce fut une de ces femmes vertueuses qui, faute d'occasion pour faire autrement, assassinent les anges de leurs plaintes, prient Dieu de manière à l'ennuyer s'il les écoute, et qui disent tout doucettement pique-pendre de leur mari quand le soir elles achèvent leur bostonne avec les voisines. Quand Aquilina connut ses malheurs, elle s'attacha sincèrement à Castanier et le rendit si heureux par les renaissants plaisirs que son génie de femme lui faisait varier tout en les prodiguant, que, sans le savoir, elle causa la perte du caissier. Comme beaucoup de femmes auxquelles la nature semble avoir donné pour destinée de creuser l'amour jusque dans ses dernières profondeurs, Madame de Lagarde était désintéressée. Elle ne demandait ni or, ni bijoux, ne pensait jamais à l'avenir, vivait dans le présent et surtout dans le plaisir. Les riches parures, la toilette, l'équipage si ardemment souhaités par les femmes de sa sorte, elle ne les acceptait que comme une harmonie de plus dans le tableau de la vie. Elle ne les voulait point par vanité, par désir de paraître, mais pour être mieux. D'ailleurs, aucune personne ne se passait plus facilement qu'elle de ces sortes de choses. Quand un homme généreux, comme le sont presque tous les militaires, rencontre une femme de cette trempe, il éprouve au cœur une sorte de rage de se trouver inférieur à elle dans l'échange de la vie. Il se sent capable d'arrêter alors une diligence afin de se procurer de l'argent s'il n'en a pas assez pour ses prodigalités. L'homme est ainsi fait. Il se rend quelquefois coupable d'un crime pour rester grand et noble devant une femme ou devant un public spécial. Un amoureux ressemble au joueur qui se croirait déshonoré s'il ne rendait pas ce qu'il emprunte au garçon de salle et qui commet des monstruosités, dépouille sa femme et ses enfants. Vole et tue pour arriver les poches pleines, l'honneur sauf aux yeux du monde qui fréquente la fatale maison. Il en fut ainsi de Castanier. D'abord, il avait mis Aquilina dans un modeste appartement à un 4e étage et ne lui avait donné que des meubles extrêmement simples. Mais, en découvrant les beautés et les grandes qualités de cette jeune fille, en en recevant de ces plaisirs inouïs qu'aucune expression ne peut rendre, il s'en affola et voulut parer son idole. La mise d'Aquilina contrasta si comiquement avec la misère de son logis que, pour tous deux, il fallut en changer. Ce changement emporta presque toutes les économies de Castanier, qui meubla son appartement semi-conjugal avec le luxe spécial de la fille entretenue. Une jolie femme ne veut rien de laid autour d'elle. Ce qui la distingue entre toutes les femmes est le sentiment de l'homogénéité, l'un des besoins les moins observés de notre nature, et qui conduit les vieilles filles à ne s'entourer que de vieilles choses. Ainsi donc, il fallut à cette délicieuse piémontaise les objets les plus nouveaux, les plus à la mode, tout ce que les marchands avaient de plus coquet. Des étoffes tendues, De la soie, des bijoux, des meubles légers et fragiles, de belles porcelaines. Elle ne demanda rien. Seulement, quand il fallut choisir, quand Castanier lui disait « Que veux-tu ?», elle répondait « Mais ceci est mieux !» L'amour qui économise n'est jamais le véritable amour. Castanier prenait donc tout ce qu'il y avait de mieux. Une fois l'échelle de proportion admise, il fallut que tout, dans ce ménage, se trouvât en harmonie. Ce fut le linge, l'argenterie et les 1000 accessoires d'une maison montée, la batterie de cuisine, les cristaux, le diable. Quoique Castanier voulût, suivant une expression connue, faire les choses simplement, il s'endetta progressivement. Une chose en nécessitait une autre. Une pendule voulut 2 candélabres. La cheminée ornée demanda son foyer. Les draperies, les tentures furent trop fraîches pour qu'on les laissât noircir par la fumée. Il fallut faire poser des cheminées élégantes, nouvellement inventées par des gens habiles en prospectus et qui promettaient un appareil invincible contre la fumée. Puis Aquilina trouva si jolie de courir pieds nus sur le tapis de sa chambre que Castanier mit partout des tapis pour folâtrer avec Naki. Enfin, il lui fit bâtir une salle de bain, toujours pour qu'elle fût mieux. Les marchands, les ouvriers, les fabricants de Paris ont un art inouï pour agrandir le trou qu'un homme fait à sa bourse. Quand on les consulte, ils ne savent le prix de rien et le paroxysme du désir ne s'accommode jamais d'un retard. Ils se font ainsi faire les commandes dans les ténèbres d'un devis approximatif, puis ils ne donnent jamais leur mémoire et entraînent le consommateur dans le tourbillon de la fourniture. Tout est délicieux, ravissant, chacun est satisfait. Quelques mois après, ces complaisants fournisseurs reviennent métamorphosés en totaux d'une horrible exigence. Ils ont des besoins, ils ont des paiements urgents, ils font même soi-disant faillite, ils pleurent et ils touchent. L'abîme s'entr'ouvre alors en vomissant une colonne de chiffres qui marche 4 par 4, quand il devait aller innocemment 3 par 3. Avant que Castanier connût la somme de ses dépenses, il en était venu à donner à sa maîtresse un remise chaque fois qu'elle sortait, au lieu de la laisser monter en fiacre. Castanier était gourmand, il eut une excellente cuisinière. Et pour lui plaire, Aquilina le régalait de primeurs, de raretés gastronomiques, de vins choisis qu'elle allait acheter elle-même. Mais, n'ayant rien à elle, ses cadeaux si précieux par l'attention, par la délicatesse et la grâce qui les dictaient, épuisait périodiquement la bourse de Castanier, qui ne voulait pas que sa naquie restât sans argent, et elle était toujours sans argent. La table fut donc une source de dépenses considérables relativement à la fortune du caissier. L'ex-dragon dut recourir à des artifices commerciaux pour se procurer de l'argent, car il lui fut impossible de renoncer à ses jouissances. Son amour pour la femme ne lui avait pas permis de résister aux fantaisies de la maîtresse. Il était de ces hommes qui, soit amour-propre, soit faiblesse, ne savent rien refuser à une femme et qui éprouvent une fausse honte si violente pour dire « je ne puis, mes moyens ne me permettent pas, je n'ai pas d'argent » qu'ils se ruinent. Donc, le jour où Castanier se vit au fond d'un précipice et que pour s'en retirer, il dut quitter cette femme et se mettre au pain et à l'eau afin d'acquitter ses dettes, il s'était si bien accoutumé à cette femme, à cette vie, qu'il ajourna tous les matins ses projets de réforme. Poussé par les circonstances, il emprunta d'abord. Sa position, ses antécédents lui méritaient une confiance dont il profita pour combiner un système d'emprunt en rapport avec ses besoins. Puis, pour déguiser les sommes auxquelles monta rapidement sa dette, il eut recours à ce que le commerce nomme des circulations. C'est des billets qui ne représentent ni marchandises ni valeurs pécuniaires fournies et que le premier endosseur paie pour le complaisant souscripteur, espèce de faux toléré parce qu'il est impossible à constater et que d'ailleurs ce dol fantastique ne devient réel que par un non-paiement. Enfin, quand Castanier se vit dans l'impossibilité de continuer ses manœuvres financières, soit par l'accroissement du capital, soit par l'énormité des intérêts, il fallut faire faillite à ses créanciers. Le jour où le déshonneur fut échu, Castanier préféra la faillite frauduleuse à la faillite simple, le crime au délit. Il résolut d'escompter la confiance que lui méritait sa probité réelle et d'augmenter le nombre de ses créanciers en empruntant, à la façon de Mathéo, le caissier du trésor royal, la somme nécessaire pour vivre heureux le reste de ses jours en pays étranger. Et il s'y était pris comme on vient de le voir. Aquilina ne connaissait pas l'ennui de cette vie. Elle en jouissait, comme font beaucoup de femmes, sans plus se demander comment venait l'argent, que certaines gens ne se demandent comment poussent les blés en mangeant leur petit pain doré, tandis que les mécomptes et les soins de l'agriculture sont derrière le four des boulangers, comme sous le luxe inaperçu de la plupart des ménages parisiens reposent d'écrasants soucis et le plus exorbitant travail. Au moment où Castagné subissait les tortures de l'incertitude en pensant à une action qui changeait toute sa vie, Aquilina, tranquillement assise au coin de son feu, plongée indolemment dans un grand fauteuil, l'attendait en compagnie de sa femme de chambre. Semblable à toutes les femmes de chambre qui servent ces dames, Jenny était devenue sa confidente après avoir reconnu combien était inattaquable l'empire que sa maîtresse avait sur Castagné. « Comment ferons-nous ce soir ? Léon veut absolument venir !» disait Madame de Lagarde en lisant une lettre passionnée écrite sur un papier grisâtre. « Voilà, monsieur !» dit Jenny. Castagné entra. Sans se déconcerter, Aquilina roula le billet, le prit dans ses pincettes et le brûla. « Voilà ce que tu fais de tes billets doux !» dit Castagné. « Oh, mon Dieu, oui !» lui répondit Aquilina. « N'est-ce pas le meilleur moyen de ne pas les laisser surprendre ?» D'ailleurs, le feu ne doit-il pas aller au feu, comme l'eau va à la rivière ? Tu dis cela, naquit, comme si c'était un vrai billet doux. Eh bien, est-ce que je ne suis pas assez belle pour en recevoir ? Dit-elle en tendant son front à Castagné avec une sorte de négligence, qui eût appris à un homme moins aveuglé qu'elle accomplissait une espèce de devoir conjugal en faisant de la joie au caissier. Mais Castagné en était arrivé à ce degré de passion inspiré par l'habitude qui ne permet plus de rien voir. « J'ai ce soir une loge pour le gymnase, » reprit-il. « Dînons de bonne heure pour ne pas dîner en poste. »« Allez-y avec Jenny, je suis ennuyée de spectacle. Je ne sais pas ce que j'ai ce soir, je préfère rester au coin de mon feu. »« Viens tout de même, naquit, je n'ai plus à t'ennuyer longtemps de ma personne. » « Oui, Kiki, je partirai ce soir et serai quelque temps sans revenir. Je te laisse ici, maîtresse de tout. Me garderas-tu ton cœur ?»« Ni le cœur, ni autre chose, » dit-elle. « Mais au retour, naquit sera toujours naquit pour toi. »« Eh bien, voilà de la franchise. Ainsi, tu ne me suivrais point. »« Non. Pourquoi ?»« Eh mais, » dit-elle en souriant, « puis-je abandonner l'amant qui m'écrit de si doux billets ?» Et elle montra par un geste à demi-moqueur le papier brûlé. « Serait-ce vrai ? » dit Castagné. « Aurais-tu donc un amant ?»« Comment ? » reprit Aquilina. « Vous ne vous êtes donc jamais sérieusement regardé, mon cher. Vous avez 50 ans d'abord, puis vous avez une figure à mettre sur les planches d'une fruitière. Personne ne la démentira quand elle voudra la vendre comme un potiron. En montant les escaliers, vous soufflez comme un phoque. Votre ventre se trémousse sur lui-même comme un brillant sur la tête d'une femme. Tu as beau avoir servi dans les dragons, tu es un vieux très laid. Par ma fique, je ne te conseille pas, si tu veux conserver mon estime, d'ajouter à ces qualités celle de la niaiserie, en croyant qu'une fille comme moi se passera de tempérer ton amour asthmatique par les fleurs de quelque jolie jeunesse. Tu veux sans doute rire, Aquilina. Eh bien, ne ris-tu pas, toi ? Me prends-tu pour une sotte en m'annonçant ton départ ? « Je partirai ce soir, » dit-elle en l'imitant. « Grand Landor, parlerais-tu comme cela si tu quittais ta naquit ? Tu pleurerais comme un veau que tu es. »« Enfin, si je pars, me suis-tu » demanda-t-il. « Dis-moi d'abord si ton voyage n'est pas une mauvaise plaisanterie. »« Oui, sérieusement, je pars. »« Eh bien, sérieusement, je reste. »« Bon voyage, mon enfant, je t'attendrai. »« Je quitterai plutôt la vie que de laisser mon bon petit Paris. » Tu ne viendrais pas en Italie, à Naples, y mener une bonne vie, bien douce, luxueuse, avec ton gros bonhomme qui souffle comme un phoque ? Non. Ingrate ! Ingrate ! Dit-elle en se levant. Je puis sortir à l'instant en n'emportant d'ici que ma personne. Je t'aurais donné tous les trésors que possède une jeune fille, et une chose que tout ton sang ni le mien ne saurait me rendre. Si je pouvais, par un moyen quelconque, en vendant mon éternité, par exemple, recouvrer la fleur de mon corps comme j'ai peut-être reconquis celle de mon âme et me livrer pure comme un lys à mon amant, je n'hésiterais pas un instant. Par quel dévouement as-tu récompensé le mien? Tu m'as nourri et logé par le même sentiment qui porte à nourrir un chien et à le mettre dans une niche, parce qu'il nous garde bien, qu'il reçoit nos coups de pied quand nous sommes de mauvaise humeur et qu'il nous lèche la main aussitôt que nous le rappelons. Qui de nous deux aurait été le plus généreux? Ô ma chère enfant, ne vois-tu pas que je plaisante? Dit Castanier. Je fais un petit voyage qui ne durera pas longtemps. Mais tu viendras avec moi au gymnase, je partirai vers minuit après t'avoir dit un bon adieu. Pauvre chat, tu pars donc? Lui dit-elle en le prenant par le cou pour lui mettre la tête dans son corsage. Tu m'étouffes! Cria Castanier, le nez dans le sein d'Aquilina. La bonne fille se pencha vers l'oreille de Jenny. Va dire à Léon de ne venir qu'à 1 heure. Si tu ne le trouves pas et qu'il arrive pendant les adieux, tu le garderas chez toi. Eh bien, reprit-elle en ramenant la tête de Castanier devant la sienne et lui tortillant le bout du nez. Allons, toi, le plus beau des phoques, j'irai donc avec toi ce soir au théâtre. Mais alors dis non, tu as un bon petit dîner, tous plats de ton goût. Il est bien difficile, dit Castanier, de quitter une femme comme toi. Eh bien donc, pourquoi t'en vas-tu? Lui demanda-t-elle. Ah, pourquoi, pourquoi? Il faudrait, pour te l'expliquer, te dire des choses qui te prouveraient que mon amour pour toi va jusqu'à la folie. Si tu m'as donné ton honneur, j'ai vendu le mien, nous sommes quittes. Est-ce aimé? Qu'est-ce que c'est que ça? Dit-elle. Allons, dis-moi que si j'avais un amant, tu m'aimerais toujours comme un père, ce sera de l'amour. Allons, dites-le tout de suite et donnez la patte. Je te tuerai, dit Castanier en souriant.